Comme l'intitulait le programme, effectivement, c'est une comédie d'ambition que ce sacre de Napoléon que vous voyez présenté derrière moi, mais c'est aussi tout un paradoxe. En effet, paradoxalement, le sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans l'église Notre-Dame de Paris, 2 décembre 1804, c'est son titre exact, demeure à la fois, on le verra tout à l'heure, le tableau le plus célèbre de toute l'épopée impériale, mais aussi le moins exposé au regard de ses contemporains. Par l'histoire de sa création, par ses dimensions, par ses quelques 200 portraits réunis, 191 pour être précis, par les changements opérés par l'artiste dans la composition finale et surtout les libertés prises avec la réalité historique, vous le savez bien sûr, cette œuvre constitue un étonnant reportage arrangé entre propagande et fidélité à l'événement. Mais cette toile révèle aussi le couronnement d'ambitions croisées, on va le voir, celle de Napoléon bien entendu, mais aussi de Joséphine et du peintre David. Jacques-Louis David, que vous voyez derrière moi dans la tribune de Notre-Dame, lorsqu'il était de retour d'Italie en 1797, son premier portrait de Bonaparte inachevé sous le bras, vous le connaissez, avait confié à ses élèves « Oh mes amis, quelle belle tête il a! C'est pur, c'est grand, c'est beau comme l'antique, c'est un homme auquel on aurait élevé des hôtels dans l'Antiquité, oui mes amis, oui mes chers amis, Bonaparte est mon héros. » Les succès de David et surtout sa toile des Sabines en 1799 avaient accru son prestige sur les peintres néoclassiques de l'époque. Et son passé de révolutionnaire et d'organisateur des fêtes de lettres suprêmes lui avait tout naturellement permis de devenir non pas le surintendant des arts comme il l'avait imaginé un temps, mais comme Lebrun, sous Louis XIV, de premier peintre, cette fois de l'empereur. Au moment du sacre, en décembre 1804, David avait été installé par le grand maître des cérémonies Ségur dans une tribune latérale de Notre-Dame. Son rôle était de croquer les événements constitutifs du cérémonial. Il avait alors le point de vue du spectateur actuel qui regarde le tableau, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'il était à l'opposé de ce qu'il est représenté, bien sûr, ici. C'est-à-dire à droite des personnages. « Sa Majesté m'a promis sur mon observation une place d'où je puisse à l'aise et sans trouble former mes idées », avait écrit ensuite David. « Je pense, d'après cet exposé, qu'il conviendrait que nous visitassions ensemble les lieux, » dit-il à Ségur, qui est le grand maître des cérémonies, « qu'en votre présence, je déterminasse l'endroit où j'établirai mon point de vue et que là, vous donnassiez vos ordres de m'y construire une loge. La chose presse, et il est indispensable que j'ai dessiné d'avance l'architecture et la disposition du local, pour n'avoir plus ensuite qu'à y poser les figures suivant la vérité des faits historiques. » Mais quel élément de ce cérémonial, de ce long cérémonial sur lequel nous ne reviendrons pas, quel élément représenté ? Le sacre ou le couronnement de Napoléon ? L'instant des onctions, du sacre, de la consécration du pouvoir que vous voyez derrière moi, dans cette gravure populaire ? Ou l'instant symbolique où Napoléon se pose la couronne sur la tête ? Depuis la lettre du 31 juillet qu'a adressée Caprara, qui était le légat du pape en France, et qu'il envoie donc au pape à Pie VII, il a entendu que le couronnement est regardé comme purement civil. On a même pensé un temps, vous le savez peut-être, le séparer de la célébration religieuse et de placer ce couronnement sur le champ de Mars devant les bâtiments de l'école militaire. Ce sera le lieu qu'on utilisera ensuite pour la distribution des aigles. Donc, deux cérémonies bien distinctes, le sacre d'un côté, le couronnement. Dès la fin du mois de Messidor, Ségur avait été chargé de toute l'organisation préparatoire, ce qu'on avait dit, et avait fait part à Napoléon d'une importante remarque. Le cérémonial, qui prend le titre en latin « pro rege coronando », qui était prévu pour son couronnement, devait assurer la suprématie, on le sait, politique aussi, du Saint-Siège, et l'humiliation de l'individu couronné. L'empereur aurait donc dû faire des génuflexions, plusieurs passages à plat ventre, des prosternations diverses et variées, c'est ce que prévoyait le cérémonial. On comprend que l'empereur ait décidé de se faire traduire le corpus de règles au mot près, et qu'il l'ait ensuite envoyé à Cambacérès afin, je cite, « que des observations et des modifications plus adaptées à nos mœurs et qui blessent le moins possible la cour de Rome soient effectuées. » En clair, surtout, qu'ils ne paraissent pas ridicules. Et cette cérémonie adaptée, que l'on voit ici dans cette gravure du livre du sac que vous voyez derrière moi, d'après les dessins d'Isabey et des architectes Percier et Fontaine, parce que Napoléon l'avait dit au Conseil d'État, « du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas que je ne voudrais pas franchir. » Fontaine, justement, Fontaine reprend dans cette aquarelle que vous voyez derrière moi, qui appartient à la Fondation Napoléon, la scène, mais cette fois avec les couleurs d'origine. Des couleurs, vous le savez, qui vont beaucoup servir à David, et la scène, on le verra, va être reprise quasiment dans son intégralité. Comme le signal de l'écluse, qui est l'élève et le parent aussi de David, la commande est passée non pas pour une, mais c'est important, pour quatre toiles au départ. De l'écluse explique: avant même que la cérémonie du couronnement eût lieu, l'impatient Napoléon fit venir son premier peintre, donc David, et lui commanda quatre grands tableaux destinés à la décoration de la salle du trône. Premièrement, le couronnement de Napoléon. C'est le tableau que l'on connaît. Second, la distribution des aigles au champ de Mars. Mais aussi troisième, l'intronisation de Napoléon dans l'église de Notre-Dame, il n'en reste qu'un croquis. Et quatrièmement, l'entrée de Napoléon à l'hôtel de ville, un dessin aujourd'hui conservé à Carnavalet, s'en souvient. Cet ordre de l'empereur remplit de joie le cœur de David, c'est de l'écluse qui parle toujours, et l'artiste était si impatient d'obéir à son nouveau maître qu'une semaine était à peine écoulée que l'idée des quatre compositions était déjà dessinée sur le papier. Ce qui n'est pas tout à fait exact, on le sait. Bref, quatre toiles à l'origine qui devaient figurer se rependant l'une l'autre et symétriquement la religion, donc le couronnement et le sacre, l'armée, la distribution des aigles, la république, la prestation de serment, et le peuple, l'arrivée à l'hôtel de ville. La dimension de chacun de ces toiles, de chacune de ces toiles, était précisée: 30 pieds de large, 19 pieds de haut, donc 9,79 m et 6,29 m de large, de haut plutôt. Vous le voyez, David avait aussi une imagination débordante. Il voulait aller au-delà des noces de Cana, dont il savait que c'était le plus grand tableau peint de l'époque. C'est donc bien l'origine, l'auto-couronnement de Napoléon, qui doit figurer sur le premier tableau, ce tableau du couronnement. Il est vrai que l'instant avait marqué les témoins présents à Notre-Dame, vous le connaissez, dans l'extrait du cérémonial qui leur avait été distribué, rien n'était précisé auprès des contemporains. Alors c'est ce que certains historiens ont traduit comme une hésitation du pape, mais cela devait prouver que Napoléon détenait son pouvoir de lui-même. Pour mieux l'affirmer, vous le voyez derrière moi dans cette gravure, il se couronne non pas face au maître-autel, donc face à Picette, donc face à Dieu, mais vis-à-vis des spectateurs, donc du peuple souverain. Pour terminer, il saisit plutôt la couronne de Joséphine, il la porta un instant au-dessus de sa tête, s'approcha de son épouse, alors agenouillée, et l'encoiffa délicatement, alors non pas par pure tendresse, mais pour qu'elle puisse s'emboîter parfaitement dans le diadème qui avait été composé de quatre rangées de perles entrelacées de feuillages en diamant et qui avait été créé pour l'occasion. Pour composer sa toile, David va utiliser alors, même s'il est un grand néoclassique et puis un révolutionnaire dans l'âme, les grandes références des cérémonies françaises du passé. Philippe de Champaigne, et même doyen pour son Louis XVI recevant l'hommage des chevaliers de l'ordre de Saint-Esprit à Reims le 13 juin 1975. Et puis on songe bien sûr à ce tableau qui est derrière moi, plus fréquemment donc ce couronnement de Marie de Médicis, peint par Rubens, vous le savez, qui est aujourd'hui également au palais du Louvre, qui était à l'époque conservé dans la galerie du palais du Luxembourg. Cette œuvre avait déjà permis, grâce à une composition en frise, on le savait à l'époque, de réunir de nombreux portraits dignitaires entourant le roi, que vous voyez ici dans la tribune, bien sûr la reine, qui est ici couronnée. Comme on le verra par la suite, la disposition des fils de Henri IV avec Gabriel d'Estrées et la présence de la reine Margot se retrouveront dans les positionnements des dignitaires de l'Empire, et puis chacun aura sa place bien distincte. Comment procède l'artiste? Comment travaille-t-il? Je ne reviens pas sur cette toile. En bon néoclassique qu'il est, David Abbey travaille ses postures nues, comme il avait déjà fait, vous le savez, pour le serment du jeu de paume, par exemple. Et il habille a posteriori ses personnages pour leur donner un plus grand dynamisme, tout cela de plus traditionnel chez néoclassique. Et comme on le constate ici, son idée première est simple: l'empereur tiendra son épée de la main gauche, la couronne de Joséphine sur la tête, puisqu'il a déjà sa propre couronne de laurier lui-même qu'il a déjà posée, et pendant ce temps, le pape sera les mains posées sur ses genoux, en attendant finalement que l'événement se passe sans que son action soit décisive. Mais précision importante, David ne travaille pas seul. Il dirige de sa chaise, il fait appel pour la partie de la perspective au décorateur de l'opéra des Gotti, tandis que son élève Georges Rouget, qui est présent à ses côtés d'ailleurs dans la tribune dans le tableau du sacre, exécute, lui, les grands ensembles. On sait aussi que les heures d'Anne de Bretagne ainsi que le livre Vie et miracles de Saint-Louis serviront pour définir sa construction et ses détails de mise en œuvre. Vous le voyez dans ce dessin préparatoire, l'architecture est bien disposée. Mais alors, il faut choisir un événement très important: quelle posture adopter? Le programme retenu, que vous voyez ici dans le dessin préparatoire qui se trouve ici également dans la collection de la Fondation Napoléon, cette posture, elle est décrite au salon 1808 par Landon dans le livret. L'empereur, après avoir lui-même posé sur son front l'une après l'autre deux couronnes, vient d'y reprendre la seconde, et où l'élevant dans ses deux mains, il s'apprête à la placer sur la tête de son auguste épouse. L'empereur est debout sur une des marches de l'autel, l'impératrice est représentée à genoux, les mains jointes, et élevée vers son souverain en signe de reconnaissance et de respect. En soi, l'acte innove quand même. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Marie de Médicis, en France, le couronnement même d'une reine ou d'une impératrice se faisait par un religieux. Alors, Napoléon s'arrange avec la réalité, vous le savez. Il sait que le roi d'Espagne couronne déjà à cette époque son épouse qu'il venait de sacrer avant de se couronner lui-même. Et même, allons plus loin, que l'empereur de Russie posait lui-même la couronne sur sa tête, ôtait sa couronne, en touchait le front de l'impératrice et la remettait sur sa tête. Donc, vous voyez, tout est affaire de goût. Mais s'il souhaite procéder de la sorte, Napoléon se souvient que depuis le IXe siècle, depuis l'époque de Charlemagne qui lui plaît tant, la liturgie du couronnement de la reine a toujours eu un rôle de fécondité. On retrouve cette idée dans le traité du sacre de Jean Gaulin de 1374, qui relate les cérémonies du sacre de Charles V et Jeanne de Bourbon. Je cite, Puis deux évêques vont chercher la reine, elle s'incline pour demander à la Vierge et au Père d'avoir des enfants. Elle est ointe d'huile et intronisée à la gauche du roi. Vous le voyez, une future mère qui devrait donner un héritier. Pourtant, David va peindre cette future mère de l'héritier comme une jeune fille d'à peine 20 ou 25 ans. Alors bien sûr, les témoins de l'époque, notamment Madame de Rémusat, dira que Joséphine avait été très maquillée, mais la raison est simple dans le tableau de David. C'est que le peintre avait fait poser sa propre fille, qui était à l'époque âgée, un peu plus jeune. En effet, alors que le pape qui avait posé pour l'artiste, et puis que l'ensemble des autres dignitaires ensuite vont se déplacer dans l'atelier de David, le couple impérial, lui, n'a pas voulu accorder de temps au peintre. Et David avait donc dû se contenter de ce qu'il avait trouvé et sa fille avait fait l'affaire. Cela explique aussi le caractère un peu marmoréen du visage de profil de Napoléon. Cette fois, David va s'inspirer des seules images de profil dont il peut disposer facilement, vous le savez, bien sûr, de ces profils, ce sont celles des pièces de monnaie ou des médailles qu'il trouve ici ou là. Mais lorsque le 4 janvier 1808, Napoléon et Joséphine se rendent dans l'atelier de David, quelle surprise! Vous l'avez vu avec les dessins préparatoires, on s'attend à ce que Napoléon se pose la couronne sur la tête. On a souvent dit que le conseil de ce changement aurait été donné par Gérard et Barbier Valbonne, ce que n'a pas démenti Napoléon à Sainte-Hélène. Delescluze toujours a raconté la journée dans ses mémoires. Donc ce 4 janvier 1808, ce jour venu, l'empereur Napoléon, l'impératrice Joséphine et toute leur famille, accompagnés des officiers de leur maison et des ministres, précédés et accompagnés d'un cortège nombreux de musiciens et de cavalerie, s'acheminèrent vers la rue Saint-Jacques et mirent pied à terre sur la place de la Sorbonne, près de la petite porte latérale de l'ancienne église de Cluny. En effet, la petite église de Cluny avait été occupée par David parce qu'une toile de cette dimension, et puis surtout les toiles qui devaient suivre, demandaient beaucoup de place. Depuis que temps, disait toujours Delescluze, il avait été fort question dans les salons de Paris de la manière dont David avait disposé de sa scène principale. Les personnes de la cour surtout critiquaient l'attitude de l'empereur et reprochaient au peintre d'avoir fait de l'impératrice l'héroïne du tableau, en représentant plutôt son couronnement que celui de Napoléon. L'objection n'était certainement pas sans fondement, et tous les gens jaloux de la gloire et de la faveur de David espéraient avec malignité que Napoléon, en critiquant cette disposition, déprécierait par cela seul toute l'économie de l'œuvre du peintre. Delescluze poursuit. Il est assez difficile de comprendre comment les gens de cour et les artistes de ce temps ont pu s'imaginer que David eût pris sous sa responsabilité l'attitude qu'il devait donner à Napoléon pendant la cérémonie de son sacre. On aurait dû s'en reposer sur la prudence et la susceptibilité du nouveau souverain, et penser qu'il avait tout prévu, tout calculé, tout arrangé d'avance avec son premier peintre. Le vrai programme donné à David, et scrupuleusement suivi par lui, était de montrer Napoléon déjà couronné, imposant la couronne sur la tête de Joséphine devant le pape, qui n'assistait là que comme témoin. Et la suite du témoignage, vous allez le voir, prouve s'il en était la bonne disposition de l'empereur à l'égard de l'ancien élève de Vien. Lorsque toute la cour fut rangée devant le tableau, Napoléon, la tête couverte, se promena pendant plus d'une demi-heure devant cette toile large de 30 pieds, en examina tous les détails avec la plus scrupuleuse attention, tandis que David et tous les assistants demeuraient dans l'immobilité et le silence. La solennité de cette visite et la curiosité extrême que chacun éprouvait de savoir le jugement que l'empereur allait porter de cette œuvre produisirent, à ce qu'ont rapporté ceux qui étaient présents, une émotion profonde. Enfin, portant encore les yeux sur le tableau, Napoléon prit la parole et dit: C'est bien. Très bien, David. Vous avez deviné toute ma pensée. Vous m'avez fait chevalier français. Je vous sais gré d'avoir transmis au siècle à venir la preuve d'affection que j'ai voulu donner à celle qui partage avec moi les peines du gouvernement. En ce moment, l'impératrice Joséphine s'approchait de la droite de l'empereur, tandis que David écoutait à sa gauche. Bientôt, Napoléon, faisant deux pas vers David, leva son chapeau et, faisant une légère inclination de la tête, lui dit d'une voix très élevée: David, je vous salue. Sire, répondit le peintre, qui se sentit ému, je reçois votre salut au nom de tous les artistes, heureux d'être celui auquel vous daignez l'adresser. L'empereur alors a-t-il ajouté, comme le rapporteront les brochures, que cela est grand, quel relief ont tous ces objets, cela est bien beau, quelle vérité, ce n'est pas une peinture, on marche dans ce tableau. Ce qui est sûr, c'est que la conclusion mit fin aux discussions et assit les positions de chacun. De l'écluse finie, pendant que Napoléon remontait en voiture, tous les courtisans s'empressèrent cette fois-ci de faire au peintre les félicitations sur son ouvrage, et chacun se retira bien persuadé que le couronnement de Napoléon ne pouvait être autrement représenté comme on venait de le voir. Vous le voyez? Le succès est au rendez-vous, puisque Napoléon en a décidé ainsi. Pourtant, on le verra, la toile va ne pas connaître ce succès tant escompté. Mais pourtant, les changements vont être opérés. Le pape, que vous voyez tout à l'heure, va faire ici un geste conciliant de la bénédiction qui était demandée par l'empereur. Ce dernier ne voulant pas l'avoir fait venir, dit-il, de si loin pour qu'il ne fasse rien. On remarque d'ailleurs sur son genou droit une ombre blanche, je ne sais pas si vous l'apercevez, qui est le souvenir de la première position, le souvenir de la main qui devait être présentée au départ. Hasard, ou plutôt calcul du peintre, le sceptre à tête d'aigle que porte l'architrésorier Lebrun, que vous voyez au premier plan, paraît aussi, alors là c'est peut-être aussi un hasard, dominer la figure du pape, comme si l'aigle surveillait un petit peu déjà Rome. De ce changement de la composition, il reste aussi, vous le savez, deux éléments moins connus. Le repentir, qui est visible à droite de la tête de Napoléon, avec le nez, le front et la couronne de laurier. Et puis surtout, surtout parce que Napoléon maintenant n'est plus penché en arrière, se posant la couronne sur la tête, mais plutôt en avant, vers Joséphine, eh bien, surtout, juste au-dessus, au-dessous plutôt de cette ombre de Napoléon, un personnage qui apparaît, qui ne figurait dans aucun dessin préparatoire, et qui surtout ne figure dans aucune relation, ni aucune liste des membres du clergé, un personnage qui devait donc occuper l'espace désormais libre, et qui plaise à la fois au peintre, mais surtout à l'empereur. Ce personnage, avec son visage très étrange qui semble regarder la couronne, ce personnage, vous l'avez reconnu, c'est bien entendu César. David, pour parer au plus pressé et pour plaire aux commanditaires de l'œuvre, lui donne donc les traits des statues qu'il a copiées à Rome lors de son séjour à l'école française. Restait tout de même à faire entrer dans la toile les 200 personnalités, ou 191, on l'a dit, demandées par l'administration. Pour se faciliter la tâche, comme ici dans la peinture de Vibert, eh bien David reprend l'idée qu'avait eue Isabey avant la cérémonie pour montrer les répétitions. Rappelons que Notre-Dame, juste avant la cérémonie, était en travaux. David va donc construire une maquette en bois, reproduisant en miniature les aménagements apportés à l'architecture de la cathédrale. La maquette est emboîtée, le couvercle est percé au sommet afin d'assurer l'éclairage comme dans le tableau. Et avec Madame Monger, il dispose des petites figures en pied dans le costume et l'attitude que les personnages avaient à la cérémonie, sorte de petites poupées que vous voyez derrière moi. Ensuite, en étudiant à part les visages de chacun en cours de séance de pose, on l'a dit, hormis Napoléon et Joséphine, eh bien David va recréer alors une ambiance qui fait aujourd'hui encore une forte impression à tout visiteur qui se présente au Louvre. Alors, passons très vite sur les personnages. Vous pourrez les découvrir ici ou là. À gauche, bien sûr, vous les avez reconnus, les maréchaux honoraires Kellermann avec la couronne dite de Charlemagne, Pérignon avec le sceptre et Lefebvre, merci, avec l'épée, sont placés au-dessus de Joseph et de Louis. Les sœurs, puis belles-sœurs, Avec de gauche à droite, Caroline, bien sûr Pauline, Elisa, Hortense, Julie, et bien entendu, au premier plan, cet enfant dont vous connaissez le destin tragique, le fils d'Hortense, Napoléon Charles, qui était déjà mort au moment où la toile est achevée en janvier 1808, qui est mort du croup le 5 mai 1807. On remarque que la dispense qui avait été accordée par Napoléon à ses sœurs de porter le manteau est ici respectée par l'artiste. Elles avaient obtenu de soutenir seulement la traîne, et on dit même que l'une d'entre elles aurait même failli, pendant la cérémonie, faire tomber Joséphine en tirant trop fort pendant les déplacements. Mais ça, c'est peut-être de la légende. Seules donc apparaissent derrière l'impératrice les dames d'honneur et d'atour, mesdames de la Rochefoucauld à gauche et la Valette à droite. Derrière, vous l'avez reconnu sans doute, le grand maître des cérémonies Ségur à gauche, avec son fameux bâton. Grand maître des cérémonies, d'ailleurs, ce qui fera dire à son frère lorsqu'il se présentera, l'autre Ségur, celui qu'on verra au moment de la campagne de 1812, il se présentera en disant: Je m'appelle Ségur sans cérémonie. Puis, à droite, Bessières, Moncey, qui porte la corbeille du manteau de l'impératrice, Serrurier, avec le coussin de l'anneau, et est-il utile de le présenter en présence de Monseigneur le prince Murat, vous l'avez reconnu, portant le coussin de la couronne, Murat, bien sûr. Lui-même en train de regarder cet événement qui va consacrer une famille et un destin. Enfin, à droite de Murat, Darville, le sénateur, et surtout le seul personnage placé et fixant posément le spectateur face à la scène, vous le voyez ici, ce personnage, important entre tous, c'est le trésorier général de la maison de l'empereur, Estève. David tenait-il à se faire payer assez rapidement? On le sait. Il ne se l'aura pourtant que tardivement après 1810. Alors, bien sûr, Madame Mère revient dans la tribune, ça vous le savez. Son absence aurait été trop choquante. On sait qu'elle avait suivi ses fils Lucien et Jérôme en Italie et qu'elle ne rentrera à Paris qu'à la mi-décembre pour montrer sa désapprobation. David la positionne au dernier moment à la demande de Napoléon et il l'entoure de la maréchale Soult et de Madame de Fontanges. Elle occupe, ce qui est quand même une position intéressante, la place qu'auparavant Henri IV avait eue dans la toile de Rubens. Vous le savez, on n'espérait pas le même destin, puisque Henri IV sera assassiné le lendemain de la cérémonie du couronnement de Marie de Médicis par Ravaillac. Mais Madame Mère n'est pas le seul ajout de la toile, ça on l'oublie. Caprara, que vous voyez ici, tout à gauche, qui était indisposé au moment de la cérémonie, et qui est peint ici sans sa perruque traditionnelle, revient aux côtés du pape. Un diacre grec a été aussi représenté, un certain Raphaël de Monakis, si l'on suit le procès-verbal, et surtout parmi les ambassadeurs que vous voyez ici, tous ces ambassadeurs, il y a bien sûr celui de la porte, dont la religion pourtant lui interdisait de figurer à Notre-Dame. Mais la galerie de portraits doit être complète, et il refigurera bien sûr dans le tableau. À ses côtés, de gauche à droite, on aura aussi reconnu l'amiral Gravina, qui est l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur Armstrong pour les États-Unis, Maréchal Key pour l'Italie, et même le comte de Cobenzl, l'ambassadeur d'Autriche, dont on dit aussi, parce que le différend avec Napoléon commençait à poindre, qu'il ne s'était pas présenté le matin et qu'il n'avait pas figuré non plus à Notre-Dame. David, dans la tribune haute, est alors entouré de ses élèves, bien sûr, de son épouse au premier plan et de ses filles, et surtout à droite, du compositeur Grétry, du peintre Lebrun, du poète Lebrun, pardon, et de son maître Vien. On reconnaît également Monget et son épouse, qui avait servi également dans les travaux préparatoires de David, Corvisart, quatre-mères de Quincy. Vous le voyez, David était entouré de membres de l'Institut, lui-même savait qu'il espérait tant. Occupant la place des chiens dans le tableau de Rubens, on se trouve non sans humour Cambacérès, portant la main de justice, Berthier avec le globe, Fesch, Bernadotte, Caulaincourt, Eugène, et avec son rictus si célèbre, bien entendu, Talleyrand. Mais pas Fouché, pas Fouché, dont la proximité avec les prélats aurait sans doute choqué, et puis qui, à l'époque, était présent dans les tribunes avec les autres membres du Sénat. Alors, la toile, vous le savez, aura une fortune diverse. Rappelons qu'une seconde version de l'œuvre, qui avait été déjà débutée dès 1808, sera achevée par David au cours de son exil bruxellois en 1822. Cette répétition avait été commandée par des Américains et par les frères Lajard de Montpellier, et elle comporte des changements importants, on pourrait y revenir dans la discussion après. Alors, il y a la robe rose de Pauline, qui est peut-être la plus reconnaissable, et qui nous permet surtout de ne pas confondre une des toiles parmi l'autre. Il y a l'absence de Rémusat, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Cette toile sera achevée avec les élèves Rouget, Navez et Dupavillon. Elle se trouve aujourd'hui, vous le savez, conservée à Versailles, face à la distribution des aigles, dans la salle du sacre qui porte si bien son nom. La caricature, bizarrement, ne va pas utiliser le tableau du sacre, mais par exemple avec Guilleret, mais va plutôt utiliser le cortège, qui donne une impression beaucoup plus fameuse de ce Talleyrand boitant, de ce Fouché avec la guillotine, et de ce Napoléon Bonnet, encore plus petit, à côté d'une énorme Joséphine. Pourtant, la fortune critique de l'œuvre sera des plus remarquables. Il n'est qu'à voir les gravures, bas-reliefs de Spalla, les autres productions populaires, je pense notamment aux Imageries d'Épinal, jusqu'aux représentations de Boilly, qui représente le public se pressant devant le tableau du sacre, jusqu'aux photographies de Willy Ronis ou les fulgurances de Georges Renner, pour s'en convaincre. Sans oublier, bien entendu, le cinéma, qui, avec Raymond Pelgrin, par exemple ici dans le Napoléon de Guitry, reprendra dans la fin de la première partie du cinéma de ce film la scène fameuse qu'il reproduit à l'identique. Pourtant, c'est une toile de paradoxe. C'est une toile de paradoxe parce que, présentée quelques mois au moment du Salon 1808, elle revient en 1810 pour le prix décennal, mais on va lui préférer la bataille d'Eylau de Gros, dont on vous parlera plus tard. Il semble qu'on ait dit aussi surtout à l'époque que l'Empire se trouvait résumé entre le tableau d'Eylau et le sacre de David. Finalement, entre le sacre et le massacre, l'Empire était là bien résumé. Et puis, surtout, un événement va arriver en 1810, c'est le mariage avec Marie-Louise, qui va faire disparaître la toile des cimes publiques. On n'avait pas osé, comme pour la distribution des aigles, faire disparaître Joséphine. Vous le savez, dans le tableau de la distribution des aigles, elle disparaît et la jambe de Eugène va occuper la place vacante. Ici, comment aurait-on pu faire disparaître Joséphine? Alors la toile, finalement, cette toile si célèbre, ne va être exposée en tout et pour tout que pendant 1 an et demi à peine au moment de l'Empire. C'est seulement en 1889, après tant d'avatars, que le Louvre l'expose de nouveau. Depuis, on le sait, son influence artistique, politique, comme l'indique le médaillon de la cour des écoles des Beaux-Arts avec David, et surtout la statue qui est élevée en hommage au peintre sur la façade de l'hôtel de ville, vont continuer à valoir à David le succès auprès du public du Louvre. Jamais ce succès d'ailleurs ne s'est démenti, en témoignent les milliers de visiteurs qu'elle fédère encore aujourd'hui. C'est un instantané séditieux, mais qui a été transformé par le génie créatif. Aux yeux de David, finalement, peu importe les grandes libertés avec l'histoire et la liturgie, les erreurs d'écoliers de la Légion d'honneur portées par les frères qui n'existaient pas, bref, on pourrait en dire beaucoup. Paradoxe, paradoxe ultime pourtant. Cette œuvre qui représente l'Empire, qui est la plus vue du public, n'occulte quand même pas la silhouette avec la main dans le gilet, l'uniforme de colonel des chasseurs ou des grenadiers de la garde. Et oui. Et oui. David aura fait la plus grande toile qui puisse paraître à l'époque, et pourtant, il n'aura pas occulté le Bonaparte ou le Napoléon que l'on connaît tant. La toile aura quand même eu le mérite de fixer cette journée du 2 décembre en une seule et même image. Comme l'a dit Frédéric Masson, le couronnement, c'est le tableau de David, c'est la scène telle que David l'a représentée, c'est dans une magnificence recueillie et immobilisée, le geste arrêté et souverain qui consacre le nouvel empire et le pare à la fois de grâce et de majesté. Cela ne fut point ainsi, on le sait, mais cela sera toujours ainsi.